Dominique Bureau est une personnalité très connue dans le monde de l'administration française. Et donc, je vous répète, il est le patron du Conseil économique du développement durable, dont je suis moi-même membre, ainsi qu'une quarantaine, je pense, de collègues qui sont à la fois des académiques, des syndicats, des représentants du monde associatif, et qui a vocation à réfléchir sur tous ces sujets et essayer de mettre en musique tous ces thèmes portés par des scientifiques et accompagnés par toutes ces ONG dans le monde de l'administration française, mais aussi plus largement dans la société française. Donc voilà, Dominique a été par ailleurs président de l'école d'économie de Toulouse. Je le remercie. Donc voilà, c'est un économiste qui a beaucoup, beaucoup mouillé sa chemise depuis 30 ans dans des tas de commissions, dont un certain nombre que j'ai cités depuis deux mois. Et je crois que la France lui doit beaucoup pour sa capacité à essayer de mettre de l'ordre dans toutes ces thématiques profondes. Voilà. Dominique, tu as 45 minutes pour toi. Il y aura, comme d'habitude, 10 minutes de discussion pour les sujets qu'il porte ce matin. Merci.
Bien, ben bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc l'objectif de ma présentation sera d'essayer de montrer comment l'approche qui a été développée dans ce cours peut être mise en œuvre en pratique. Au fond, on peut repartir de la dernière question qu'analysait Christian en disant il faut que le politique s'en saisisse et il faut qu'il se dote de moyens d'évaluation. Donc ce que je vais essayer de montrer, c'est que les moyens d'évaluation ou les méthodes d'évaluation qui ont été présentées dans ce cours permettrait de lever beaucoup d'obstacles, c'est-à-dire qu'on peut dire il faut faire de l'évaluation, mais si on n'a pas les instruments pour faire cette évaluation, il y a un problème. Donc ce que je vais essayer de montrer, c'est d'une part que ce qui a été développé dans ce cours fournit des instruments d'évaluation qui permettraient d'éclairer les choix et qui permettraient en tous les cas de les éclairer beaucoup mieux que les instruments qu'on utilise plus classiquement encore aujourd'hui. Donc ce que je ferai, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est que je rappellerai pourquoi il y a ce besoin d'évaluation des politiques climatiques, des politiques publiques dans le domaine du climat. Et à cet égard, je m'inscrirai peut-être en non-sens ce qu'a dit Christian là, il y a deux minutes, où il disait ça ne se met pas en œuvre parce qu'on n'a pas les instruments. Je pense que ça ne se met pas en œuvre parce qu'on n'a pas les instruments, et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Par exemple, on n'a pas en France de cadre institutionnel pour faire de la tarification du carbone dans de bonnes conditions. Donc clairement, on a des obstacles institutionnels, on a des obstacles pour mettre les instruments qu'il faudrait. Mais on a aussi le fait qu'on ne fait pas assez d'évaluation des politiques publiques, et notamment dans le domaine climatique. Et ce que je veux insister, c'est sur le fait que la case évaluation des politiques publiques ne peut pas être sautée comme ça. Ensuite, je discuterai des pratiques d'évaluation, ce que j'appellerais l'analyse coût-bénéfice classique, et comment finalement ce qui a été présenté dans ce cours permet de dépasser ça et de dépasser les critiques récurrentes qui lui sont adressées. Et enfin, j'essaierai de montrer, si j'ai encore le temps, en revenant justement sur le sujet qui fâche, qui est la tarification du carbone, que si on appliquait toutes les potentialités au fond du calcul économique public, du nouveau calcul économique public qui nous est proposé, je pense qu'on pourrait éclairer beaucoup mieux les choix et peut-être qu'on aurait pu éviter au moins certains malentendus. La première chose sur laquelle je vais insister, qui est complètement banale, c'est de dire qu'il y a besoin d'action publique. Et l'action publique est... Alors pourquoi il y a besoin d'évaluation de l'action publique dans le domaine du climat ? En fait, parce que l'action publique est en première ligne pour les politiques climatiques. Alors que dire ça, ça paraît totalement banal, mais finalement, les questions qui ont été posées montrent que ça ne l'est pas tout à fait, puisque au fond, il y a plusieurs malentendus. Il y en a certains qui imaginent, en fait, on dit oui, il faut des politiques publiques, mais au fond, les approches volontaires pourraient suffire, ou l'épuisement du stock des fossiles pourrait suffire. Bon, la réponse est non. Les approches volontaires sont très importantes. Il est important que le public, et pour adhérer aux politiques climatiques, il est important que le public ait en tête et change ses comportements, change ses valeurs, etc. Mais spontanément, et j'y reviendrai, les approches volontaires sont... s'en remettre aux approches volontaires n'est pas suffisant et ne peut pas permettre de s'attaquer aux problèmes dont on a vu l'ampleur par ailleurs. Deuxième chose, il n'est pas non plus bien pris en compte ou bien pris la mesure que les politiques publiques, certes, il faut de l'action publique, mais c'est une action publique qui est assez différente de l'action publique à laquelle on est habitué. Et ça pose un certain nombre de problèmes, puisque l'objet de cette action publique, c'est d'orienter les comportements privés, c'est-à-dire c'est d'orienter, faire évoluer les structures de production, faire évoluer les structures de consommation, faire inciter à de la R&D verte, faire inciter au déploiement de cette innovation verte. Donc c'est une politique publique qui est assez différente des politiques publiques les plus traditionnelles. Et puis, par ailleurs, troisième malentendu, il y en a qui disent que cette action publique, c'est le marché. Ben non, ce n'est pas le marché du tout, c'est de l'action publique. C'est ce que vient d'expliquer Christian, je vais pas revenir là-dessus. Pour illustrer en quoi ces politiques publiques sont atypiques, il faut se rendre compte qu'au fond, la conceptualisation économique des politiques environnementales est extrêmement tardive, elle est récente. Enfin, les politiques environnementales, ça existe depuis toujours. Les premières villes-État, on a tous appris le cloaca maxima à Rome, il y avait des investissements publics pour gérer l'assainissement et il y avait des réglementations publiques pour éviter que les tanneries et les abattoirs soient en amont des captages d'eau potable, par exemple. Au fond, c'était des choses assez particulières, politique publique traditionnelle, soit de réglementation, soit d'investissement public, et qui ne répondaient pas, au fond, aux questions qu'on a avec des politiques dont je vais montrer par ailleurs les enjeux après. Par exemple, chez Adam Smith, la politique environnementale est totalement absente. Pourtant, il y a quelque chose qui ressemble, c'est justement l'investissement public, avec un argument très fort pour justifier que l'investissement public soit ce qu'il appelle le troisième devoir du souverain, si mes souvenirs sont bons, et il le justifie par la divergence des intérêts privés et de l'intérêt social, à savoir que les individus, individuellement, vous n'avez pas intérêt à construire les ouvrages publics parce que vous n'en tirez qu'un tout petit bénéfice. Alors, ce qui a apporté l'approche moderne des politiques environnementales, c'est Pigou, au début du XXe siècle, qui, lui, a en fait repris cet argument et en constatant pourquoi il y a trop de pollution. Il y a trop de pollution parce que, individuellement, vous créez des dommages aux autres agents, donc il y a une divergence très très forte entre votre intérêt privé et l'intérêt social. Et donc, il y a un excès de pollution parce que vous ne prenez pas en compte les dommages que vous occasionnez aux autres et c'est à partir de ça qu'il faut construire les politiques publiques. Alors, en disant cela, et donc, ces politiques, ça doit être des politiques de responsabilisation, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle dans notre jargon internaliser le coût des dommages externes, le coût des dommages qu'on crée aux autres quand on fait des pollutions. Et donc, l'idée fondamentale, c'est des politiques pour responsabiliser les agents économiques par rapport à leurs atteintes à l'environnement. Illustration, alors ce n'est pas la Louisiane, mais c'est un peu la même chose. Je veux insister sur, quand on dit ça, on a en tête que ces politiques de protection de l'environnement vont être des politiques dont on dit qu'il faut concilier écologie et économie. Non, ces politiques sont fondamentalement des politiques pour créer de la richesse, si on intègre toutes les composantes de la richesse. Et on en a un exemple ici sur un débat qui suivait le Clean Air Act, la réglementation sur les pollutions atmosphériques aux États-Unis. Il y avait un débat, à savoir, vous aviez la courbe en noir. Si on prend l'indicateur classique du PIB, on disait le PIB a stagné dans le secteur des utilities, donc de la production d'électricité, dans les années 2000, à cause du Clean Air Act, vous voyez, il n'y a pas eu de productivité parce qu'on a mis plein de réglementations environnementales, ça a coûté très cher. Mais ce que vous montre la courbe rouge, c'est qu'on a diminué, on a considérablement amélioré l'espérance de vie, grâce à ça, des gens qui habitent à côté des centrales thermiques de Pennsylvanie. Ce n'est pas la Louisiane, c'est la Pennsylvanie. Donc c'est le graphique en rouge. Et donc si on valorise, en prenant en compte une valeur statistique de la vie humaine, ce qui va compter, la vraie richesse créée, c'est l'écart entre les deux courbes. Et donc, on voit, c'est redonné par la courbe en pointillé, vous voyez qu'en début de période, en fait, la vraie richesse créée par les centrales électriques aux États-Unis de Pennsylvanie, elle était assez faible parce que ça ne coûtait pas cher, mais ça fait beaucoup. Et grâce au Clean Air Act, finalement, la balance est très positive et on a créé de la richesse. Donc, c'est des politiques pour créer de la richesse. Ce qu'il faut ajouter maintenant, et ça a été au cœur de...
Quand tu fais ça, excuse-moi, Dominique, quand tu fais ça, tu mets une valeur sur la vie humaine.
On met une valeur, alors c'est la valeur... Comme vous savez, ce sujet sur l'impact des réglementations a été très fort aux États-Unis et a amené des contraintes, c'est-à-dire que l'agence américaine, l'EPA, qui est l'agence américaine pour l'environnement, ne peut faire passer des réglementations que si elle a justifié avec des valeurs de la vie humaine qui sont elles-mêmes imposées par le gouvernement, par la Maison-Blanche, etc., puis contesté par le Congrès, etc. Et donc, on impose à l'EPA de montrer et de faire des évaluations ex post pour montrer que les réglementations environnementales qui sont prises par l'EPA sont bien des réglementations qui vont créer de la richesse en valorisant. Alors, c'est beaucoup plus élevé que ce qu'on prend en France, hein, c'est de l'ordre plutôt de, je crois, 10 millions d'euros la vie humaine, enfin le décès évité, alors que je crois qu'en France, on met à 3 millions d'euros. Donc, quels sont les problèmes? Alors, le climat, c'est quand même un problème environnemental beaucoup plus complexe que les politiques qu'on a. Pourquoi? Bah, parce qu'au fond, tout le monde est pollueur. Et en plus, chaque tonne émise va polluer toutes les générations futures. Donc, on n'est pas dans le problème de pollution où il y a deux voisins qui se polluent mutuellement. On peut imaginer des solutions pour qu'ils s'arrangent et puis tout ça va bien. On est avec des problèmes beaucoup plus compliqués et puis avec une hétérogénéité des situations qui fait, par exemple, bon, réglementer les abattoirs à Rome ou à Carthage, c'est pas très compliqué. Là, est-ce qu'on va interdire le véhicule individuel pour baisser les émissions de carbone? Ben, si vous habitez en centre-ville, ça ne vous fait pas grand-chose. Si vous habitez en zone périurbaine, ça vous bloque complètement. Et donc, on voit bien que ça va être difficile de traiter ça uniquement par des approches réglementaires comme on a l'habitude. Donc, le côté « tout le monde pollue tout le monde », enfin, une pollution complètement globale, bon, évidemment, on a parlé beaucoup des incertitudes, à la fois sur les impacts, sur les solutions. Peut-être deux points qui sont importants, c'est sur l'économie politique. Alors, les points qui sont le plus mis sur le débat, c'est les impacts. Bon, effectivement, si on fait une politique de protection de décarbonation seule, on va favoriser la compétitivité de nos concurrents qui, eux, ne font pas la même chose, et donc il y a le débat sur la compétitivité. Il y a le débat, chose en plus très gênante, et ça, je crois que Kathleen Schubert l'avait présenté, Marc Fleury était revenu, c'est des politiques régressives, c'est-à-dire que spontanément, si on rapporte aux revenus, les pauvres, les ménages modestes, sont relativement plus émetteurs que les ménages riches. Moyennant quoi, les politiques de protection vont peser relativement plus sur les pauvres que sur les riches. Et donc, en termes fiscaux, on n'aurait pas le droit d'utiliser la taxe carbone comme instrument pour financer, puisque normalement, les taxes doivent être contributives. Là, on a quelque chose qui est régressif. Donc, fondamentalement, on voit bien qu'on a un problème, c'est qu'en plus, les effets distributifs de la taxe, de toutes les politiques du carbone, c'est-à-dire que vous procédiez en mettant une taxe sur l'essence ou que vous interdisiez ou que vous obligiez le passage aux véhicules électriques, ce sera régressif. Donc, c'est intrinsèquement un problème des politiques de décarbonation, le fait que, du point de vue de la distribution revenue, spontanément, elles vont plus peser sur les pauvres que sur les riches. Vous avez le même pendant au niveau international. Pour faire des politiques carbone, vous avez besoin... Enfin, les pays émergents, le décollage économique va coûter en carbone. Donc, si vous dites « j'interdis pour tout le monde les émissions de carbone », vous bloquez le décollage économique des pays les plus pauvres. Et donc, on voit bien que le problème distributif est grave. Le dernier point qui est spécifique et qui est problématique revient sur quelque chose que vient justement d'évoquer Christian, c'est le problème... Alors, sous un autre angle, c'est qu'aujourd'hui, en mettant en place des politiques qui vont faire qu'on va moins chercher dans le sol des ressources fossiles qui existent, et qui existent certes abondamment, mais à des coûts d'extraction qui sont plus ou moins élevés. Donc, aujourd'hui, les propriétaires des ressources fossiles, ils ont des rentes. Et donc, si vous faites une politique de décarbonation qui fait qu'on ne va plus consommer de gaz et de charbon, bah, évidemment, ces rentes, elles tombent à zéro. Et donc, on a un déplacement des rentes qui est tout à fait important et qui, évidemment, du point de vue de l'économie, qui va être quelque chose de sensible parce que les gens qui bénéficient aujourd'hui de ces rentes ou qui anticipaient pouvoir les conserver durablement, s'il y a des politiques climatiques, ça veut dire que leurs rentes, au fond, elles vont se transférer entre eux et ceux qui vont maintenant posséder, entre guillemets, les droits à émettre du carbone. Et donc, ces effets distributifs qui ne sont pas des effets entre déciles de ménage, mais qui sont plutôt des effets très localisés par rapport à ceux qui, aujourd'hui, bénéficient de rentes sur les ressources naturelles et les ressources fossiles, bah, eux vont voir leurs rentes diminuer. De même, ceux qui ont mis en service des centrales à charbon hier, ils ne vont pas pouvoir les amortir normalement. Et donc, évidemment, ils vont être obligés de déclasser. C'est le problème des sunk costs, avec éventuellement le fait que ce soit reporté sur le système financier, ce qui crée de l'instabilité. Mais donc, on a un certain nombre de problèmes d'économie politique qui sont par ailleurs tout à fait spécifiques au fait qu'on traite de ressources naturelles. Tout ça fait qu'on a des politiques qui vont être très complexes, parce que si on veut faire des politiques proprement, il faut à la fois orienter les choix, mais régler les problèmes distributifs, régler les problèmes de compétitivité éventuellement, c'est l'objet par exemple de la taxe frontière au carbone, et il faut aussi faire des investissements d'accompagnement. Vous pouvez dire j'oblige aux véhicules électriques, s'il n'y a pas de réseau de bornes de recharge, ça ne va pas bien fonctionner, donc il faut absolument que les investissements complémentaires soient en place. Et donc, on a des politiques qui sont extrêmement complexes à concevoir pour qu'elles fonctionnent correctement, et avec comme conséquence qu'il va falloir que pour que ça fonctionne bien, il va falloir coordonner, il va falloir orienter les choix privés, mais pour que ça marche bien, il faut aussi coordonner un certain nombre d'autorités publiques. Alors, entre pays, ça c'est l'objet de la coopération internationale, à savoir que si on veut qu'il y ait une politique climatique ambitieuse, il faut qu'elle soit... Enfin, ça ne peut pas être individuellement un seul pays qui va sauver la planète. Il faut absolument trouver des solutions coopératives, ce qui ne va pas de soi. Et deuxièmement, même au sein des États, par exemple, du point de vue de la politique publique, ça veut dire qu'il faut que, historiquement, les politiques publiques... J'ai oublié de dire, je parle à mon titre personnel, malgré ce qu'a rappelé Christian, mais les politiques publiques sont cloisonnées. Il y a les gens qui s'occupent de la régulation du marché de l'électricité, et puis dans le temps, il y avait les gens qui s'occupent des politiques environnementales. Il est évident que si on veut décarboner le secteur électrique, on a besoin que ces gens-là travaillent vraiment ensemble, et ça ne va pas de soi. Si vous le regardez, par exemple, au niveau des villes, ben vous voyez bien, bon, par exemple, qu'au niveau de l'État, mettre en place une tarification du carbone, c'est le rôle de l'État. D'ailleurs, aucune ville ne le ferait, parce que si elle mettait une tarification du carbone, elle deviendrait moins attractive que la ville voisine, et donc ça ne marcherait pas. Donc, clairement, ça ne peut se faire qu'au niveau de l'État. Fixer la date à laquelle on interdira la mise sur le marché de nouveaux véhicules thermiques, ça relève de l'État. On ne va pas faire des normes. Si on veut inciter à l'innovation, il faut un cadre lisible pour l'innovation. Il vaut mieux que ce soit fait au niveau de l'État, voire au niveau européen, comme c'est ce que fait le paquet Fit for 55. Voilà. Mais par contre, la politique, fournir des modes de transport alternatifs, des pistes cyclables, des transports publics, etc., et des zones de covoiturage, etc., s'assurer que si on va vers des villes plus denses, les réglementations foncières faciliteront de fabriquer des villes qui fonctionnent bien dans ce nouveau contexte, etc. C'est le rôle des autorités locales. Et puis, pour financer les investissements qui sont derrière, qui sont quand même pas minces, il faut aussi trouver des instruments de financement adaptés, et par exemple l'investissement vert, mais avec les problèmes et éventuellement les réglementations pour que l'investissement vert ne soit pas simplement du greenwashing. Donc tout ça montre qu'on a besoin de coordonner les autorités publiques et que ce n'est pas si facile que ça. Autre illustration pour montrer cette complexité des instruments, dans le cas du paquet Fit for 55, qui est la politique européenne pour viser moins 55% à l'horizon 2030, c'est pas moins de 13 directives qui vont être modifiées, certaines pour renforcer et élargir la tarification du carbone, c'est le marché européen du carbone, mais d'autres qui vont fixer des réglementations sur les différents types de carburants, sur les taux d'incorporation d'énergie renouvelable, etc., d'autres sur les investissements, est-ce qu'il n'y a pas aussi, et un autre instrument, qui est le Fonds social pour le climat, qui vise à traiter les problèmes distributifs associés. Donc on a forcément des politiques qui sont très compliquées, qui nécessitent de la coordination des différents acteurs. Et alors certes, pour améliorer les choses, on essaye de faire des cadres qui essayent de dire comment il faudrait travailler, qui doit faire quoi, et avec une checklist de tout ce qu'il faudrait faire. Mais... bon, les checklists, ça ne remplace pas le fait qu'à un moment ou à un autre, il faut évaluer les politiques. Et au fond, pour que cette coordination des différentes politiques publiques fonctionne bien, on a vraiment besoin d'évaluation. Et je vais vous donner un exemple à contrario d'une politique qui, en apparence, parce qu'il y a des politiques où c'est évident qu'elles n'ont pas bien fonctionné, donc ce n'est pas très intéressant, mais même des politiques qui, en apparence, peuvent sembler avoir bien fonctionné, quand on y regarde de plus près, on est parfois déçu. Et l'exemple, c'est la première version du bonus-malus en France. Donc, vous connaissez le bonus-malus. Selon la voiture que vous achetez et ses émissions, vous avez un bonus ou un malus. Si vous regardez le graphique de gauche, vous constatez qu'au moment où on l'a mis en place, alors que l'amélioration des performances en termes de CO2 du parc qui était mis, du parc nouveau qui était mis chaque année sur le marché baissaient régulièrement, mais enfin quand même pas très très vite, parce que si vous regardez l'échelle, on démarre déjà à 130, quoi. Enfin, donc ça diminuait doucement. Le jour où on a mis en place le bonus-malus, la structure du parc a vraiment changé, les comportements, les entreprises, enfin, les ménages et les producteurs automobiles ont mis des véhicules qui étaient moins émetteurs, mais qui restaient quand même émetteurs. C'était des véhicules thermiques plus performants. D'où deux problèmes. Le premier problème, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, à savoir que quand vous avez un véhicule qui est plus performant à l'usage, ben vous l'utilisez plus. Donc, moyennant quoi, vous avez un véhicule qui émet moins, mais qui roule plus. Et on en perd déjà la moitié. Et puis, deuxième chose, le premier bonus-malus, il était déséquilibré. C'est-à-dire qu'on donnait plus de bonus que de malus, globalement. Moyennant quoi, ça veut dire qu'on subventionnait l'acquisition de véhicules neufs. Et de véhicules neufs qui étaient encore émetteurs. Moyennant quoi, on avait des véhicules plus performants, mais on avait plus de véhicules performants. Et donc, les estimations de nos collègues là, du CREST et de PSE, enfin bon, etc., aboutissait à dire que le premier bonus-malus, malgré la bonne performance sur l'orientation du parc, avait plutôt conduit à augmenter les émissions de gaz à effet de serre, et donc il fallait le corriger, ce qui a été fait depuis, mais ce qui illustre à quel point, si on ne met pas les chiffres et si on ne fait pas des évaluations rigoureuses, on a de bonnes chances d'avoir des politiques qui sont en réalité très très inefficaces et très coûteuses, alors qui vont être inefficaces, soit parce qu'elles ne vont pas réduire beaucoup les émissions, c'est ce qu'on a malheureusement sur un certain nombre de dispositifs anciens en matière de rénovation des bâtiments, où finalement on constate que c'est nos collègues de l'École des Mines qui montrent que les réductions d'émissions obtenues sont 8 fois plus faibles, je crois, que les réductions d'émissions. Alors, sur les dispositifs passés, on les a mieux ciblés, mais enfin, il y a encore quelques années, parce que l'évaluation ex post, ça prend un peu de temps, donc on avait des dispositifs qui étaient 8 fois moins efficaces à dispositif donné que ce qui était attendu, et puis il y a des fois, ça coûte plus cher, donc bon, il y a deux sources de dérapage possibles, soit parce que les réductions d'émissions ne sont pas au rendez-vous, soit parce que les coûts d'abattement sont beaucoup plus importants que ce qui était escompté. D'où on a besoin de faire de l'évaluation. Alors, il y a l'instrument de référence pour faire de l'évaluation, hein, c'est ce qu'on appelle l'analyse coût-bénéfice. Le principe est simple, on l'a suffisamment vu maintenant. D'un côté, l'idée, c'est que pour en faire suffisamment pour les générations futures, sans imposer de sacrifices non justifiés aux générations présentes, ben, il faut faire la balance entre les coûts nécessaires pour réduire les émissions, ce qu'on appelle les coûts d'abattement, qui vont dépendre des mesures qu'il faut mettre en place, obliger tout le monde à acheter des véhicules électriques, par exemple, et de l'autre, prendre en compte les coûts imposés aux générations futures par le changement climatique du fait des dommages qu'il induirait, à terme de rendement agricole, d'événements extrêmes, de disponibilité en eau, de stress hydrique, etc. Et donc, ça, c'est les coûts, parce que c'est la valeur carbone, c'est les coûts à la tonne de carbone émise. Et donc, quand on veut faire de l'évaluation des politiques publiques, on applique la formule toute bête dans laquelle on valorise les tonnes de carbone évitées avec la valeur carbone, on en déduit les coûts d'abattement et on pondère ce bilan qui est fait à chacune des périodes avec un coefficient d'actualisation. Voilà. Juste un commentaire pour nuancer ce qu'a dit, enfin nuancer, dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Christian précédemment. C'est vrai que on a des donc la manière idéale qu'on aimerait pouvoir mettre en œuvre, c'est d'évaluer ce coût social du carbone, cette valeur sociale du carbone, en faisant un calcul à partir des dommages du changement climatique. Bon, on a vu que c'est compliqué, c'est l'approche Greenstone, hein, c'est l'approche de la commission Greenstone aux États-Unis qui est difficile, bon, etc. Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'étapes, etc. Mais qui correspond strictement, au fond, la valeur sociale du carbone, c'est la valeur des dommages évités. Si on donné aux générations, à toutes les générations futures, donc ce sera l'avantage, les bénéfices d'une tonne de carbone évitée si on réduit nos émissions d'une tonne, c'est l'avantage. Ensuite, c'est vrai, si on s'est donné un budget carbone, si on s'est donné un objectif qu'on ne veut pas dépasser de degrés, on refait, les climatologues nous font la conversion et nous disent ça nous fait tant de millions de tonnes, on peut faire un autre calcul qui consiste à calculer la valeur limite, c'est-à-dire au fond le prix de référence du carbone, c'est-à-dire le, le terme CSC qu'il faut mettre dans la formule et qui dira que bah, si on vise 2 degrés, il faut faire toutes les mesures dont le coût d'abattement sera inférieur à ce coût social du carbone et qu'à chaque fois, on améliorera la richesse sociale si on fait ça. Là où je suis pas tout à fait, là où je veux nuancer, c'est qu'on a tendance à le présenter comme 2 alternatives. C'est pas 2 alternatives. Et pourquoi c'est important ? C'est que, en tant qu'expert, quand on voit le dialogue des experts et des politiques, l'un des problèmes, c'est que souvent, les politiques comprennent pas à quelle question on répond. Et les experts sont un peu fautifs parce qu'ils disent pas à quelle question ils répondent. Et donc, on crée beaucoup de malentendus. Or, clairement, on ne répond pas à la même question. Dans un cas, on se pose la question, on se dote d'un moyen qui permet de se poser la question quelle serait l'ambition de la politique climatique qu'on doit avoir ? Est-ce qu'on doit viser 3 degrés, 2 degrés ou 1 degré et demi ? Ensuite, c'est une question aussi tout à fait importante, à la fois en pratique, pour mettre en œuvre, une fois qu'on s'est fixé qu'on visait 2 degrés, bah effectivement, il faut voir se fixer la valeur limite de référence. Ça va être très utile pour évaluer toutes les politiques publiques de décarbonation. Mais clairement, c'est un calcul qui répond à une autre question qui est si je me suis. Ça répond au comment, mais ça ne renseigne rien sur quel serait le bon objectif. C'est-à-dire, qu'est-ce que le 2 degrés, c'est un bon objectif ? On n'en sait rien. On a supposé qu'on se fixait 2 degrés et on cherche comment faire et la valeur de référence du carbone qu'il faut mettre. Et donc, je pense qu'il est important de ne pas faire par facilité, je dirais, de dire ben, on se rabat là-dessus parce qu'on ne sait pas très bien faire la première étape. Je crois qu'on a besoin des 2 étapes et on répond à 2 questions qui sont différentes. Et donc, les 2 approches sont complémentaires parce qu'elles répondent à des questions différentes. Mais il faut reconnaître qu'en répondant au comment, on ne répond pas à la question quel niveau. Donc, il faut faire très attention à ça. Et je pense qu'il y a un peu de glissement parfois. Voilà. Une autre manière, juste une illustration hein, pour dire que ça se fait ou que ça ne se faisait pas. Ça ne se fait pas tant que ça. Dans les calculs que tu as montrés de RTE, on n'a pas fait, ils n'ont pas été jusqu'à présenter ce calcul. Ils ont présenté un coût complet de l'électricité. Donc, je reviens en arrière. Donc, si on se pose la question de quel parc d'électricité, comment orienter le parc d'électricité, ben on se fixe, on va évaluer la demande. Et puis, l'analyse coût-bénéfice, ça consiste à essayer de voir l'organisation du mix électrique qui va permettre de satisfaire la demande au moindre coût. Alors, moindre coût, en intégrant les externalités. Donc c'est ça l'analyse coût-bénéfice, et on retrouvera donc dans le coût d'une centrale au charbon, il faut intégrer les émissions de CO2, mais il faut aussi intégrer les dommages sanitaires liés aux émissions de SO2 si on n'a pas mis de réglementation qui les limite, etc. Donc quand on parle de coût complet, on devrait parler de coût complet, y compris coût complet externe, ce qui n'était pas tout à fait le cas dans le graphique de RTE. Alors certes, c'est essentiellement du décarboné, donc on peut dire que ça compte pas trop. Néanmoins, quand on voit ce graphique qui était fait dans les années 2000, qui calculait des coûts externes, donc c'était les coûts qu'il faut ajouter aux coûts marchands des différents modes de production électrique. Alors, à l'époque, avec un prix du carbone qui devait être à 18 euros la tonne de carbone, si je calcule bien, sachant que je sais que les centrales à charbon émettent une tonne de carbone par mégawatt-heure. Voilà. Ce qu'on voit, c'est qu'à l'époque, il y avait le carbone, mais le sanitaire n'est pas négligeable. Par exemple, si on fait ces calculs-là, on se rend compte que si on veut faire de la biomasse, bah, les questions des particules et de la biomasse sont des choses qui sont tout à fait sérieuses. Et n'ayant pas assez regardé ce graphique, il a fallu s'en constater dans la pratique, c'est qu'il a fallu durcir progressivement les réglementations sur les chaudières et l'utilisation de la biomasse parce qu'on laissait se faire beaucoup de dommages sanitaires qu'on aurait pu éviter. Donc ces calculs-là montrent qu'il faut intégrer toutes les externalités, donc que ce soit le carbone, mais évidemment les dommages sanitaires qui sont importants, et ce d'autant plus que les dommages climatiques sont souvent aussi des dommages. Si c'est la propagation des maladies infectieuses du fait du changement climatique, c'est des dommages sanitaires en réalité. Donc, évidemment, il faut intégrer tout ça. Évidemment, il faut intégrer toutes les externalités du côté de l'environnement, des dommages, hein, du côté bénéfices environnementaux. Il faut aussi le faire éventuellement du côté des coûts. Et une des choses qui est débattue, c'est que c'est ce qu'on appelle les effets d'apprentissage, à savoir qu'en commençant à déployer des nouvelles technologies, et aussi bien dans le cas de l'éolien que du solaire, on a eu des baisses assez sensibles, des coûts, parce que en déployant, on apprend à... Il y a des gains de productivité sur les nouvelles technologies. Donc, c'est des externalités que je qualifierais de politique industrielle. Et donc, ces externalités de politique industrielle sont tout à fait importantes à prendre en compte quand on fait ces politiques climatiques. Et par exemple, évidemment, ça justifie de faire de la recherche, parce que même si les technologies ne sont pas encore matures, on espère que grâce à la recherche, on va permettre d'améliorer leur performance. Mais là, on est dans le domaine de problèmes de mesure, de chiffrage qui sont très, très importants en pratique. Revenons aux questions plus conceptuelles. La manière dont on fait le calcul habituellement, d'où on sort la formule que j'ai rappelée du bilan coût-avantage en bas, fondamentalement, elle dériverait d'une fonction de bien-être qui est celle en haut, qui est donc une somme pondérée des utilités des différentes générations. Mais avec, alors ensuite, de cette fonction de bien-être collectif, on déduit à la marge l'analyse coût-bénéfice, donc je ne vais pas détailler ça. Par contre, si on regarde le critère en haut, ce n'est pas tout à fait celui qu'a pris Christian Gaulier, puisque d'une part, on met une préférence pure pour le présent qui est importante, c'est-à-dire qu'on donne plus de poids intrinsèquement, on donne plus de poids aux générations présentes qu'aux générations futures. Et deuxièmement, on a tendance à tout ramener au revenu moyen de la période, c'est-à-dire que les questions de distribution d'inégalités internes, donc au sein de chaque génération, les problèmes d'inégalité sont complètement évacués puisqu'on prend la consommation moyenne de la génération correspondante. Alors, c'est donc les hypothèses, préférence pure pour le présent qui est significative. On suppose par ailleurs que les marchés sont efficaces, donc ce qui va faire fondamentalement qu'en dehors des prix, en dehors des coûts externes, et en dehors du taux d'actualisation, on prend les prix de marché, c'est-à-dire qu'on considère que le coût est bien représentatif au fond de la valeur sociale des différents biens. On suppose aussi que la distribution des revenus est optimisée, c'est-à-dire ce que je viens de dire, à savoir, puisqu'on ne prend que la moyenne, ça suppose que les éventuelles inégalités ne comptent pas. Alors, soit parce qu'elle est optimisée, c'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse héroïque qu'au fond, il n'y a plus de pauvres et de riches si on ne souhaiterait pas donner plus d'argent aux pauvres. Bon. Ou ce qu'on fait, c'est qu'on interprète autrement le critère en disant le critère est plutôt un critère d'efficacité et puis il appartient à d'autres, une autre partie de la politique économique, de faire éventuellement les transferts, les compensations, de manière à ce que, au fond, qu'il y ait un gain pour tout le monde. Mais donc, on s'en occupe pas, on dit c'est à d'autres, c'est à la politique sociale de s'occuper des aspects distributifs. Nous, on s'occupe que de la politique d'efficacité climatique. Et puis, donc, tous les risques associés sont diversifiés, puisque je l'ai interprété à la fois entre pauvres et riches, on peut interpréter entre mauvais état de la nature et bon état de la nature, mais on ramène tout ça à la moyenne. Et donc, quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que le futur est complètement écrasé par l'actualisation, que tous les problèmes d'inégalité, de régressivité, des problèmes de rôle assurantiel, pas assurantiel des politiques sont évacués. Et donc, on le présente usuellement comme un critère uniquement d'efficacité, en supposant qu'il y aura une autre partie de la politique publique qui s'occupera éventuellement de corriger les effets sociaux qui seraient indésirables. Mais, alors, si je prends ces hypothèses, je suis parti sur les hypothèses, les conséquences, et donc si on reprend les critiques, évidemment, vous avez les quatre critiques par rapport à cette analyse coût-bénéfice un peu classique, dans laquelle on se contente juste de modifier à la marge en rajoutant un coût externe. Donc, critique éthique en disant, mais pourquoi, de quel droit vous considérez que les générations présentes ont plus de mérite, plus l'attention que celles de nos enfants ? Problème de l'incertitude, à savoir la croissance à long terme est incertaine, il n'y a aucune notion de précaution, vous avez un taux d'actualisation et donc la conséquence, un taux d'actualisation qui écrase tout. Vous compensez ça par des exercices de sensibilité souvent qui ignorent complètement la règle de Ramsey, donc l'incertitude est très maltraitée. Vous ne traitez pas correctement les impacts redistributifs et notamment dans le cas du carbone, c'est grave puisque vous êtes confronté à des politiques qui sont intrinsèquement régressive, ou spontanément régressive, sans mesure d'accompagnement. Et puis, vous supposez qu'en dehors des coûts des dommages du carbone Et en dehors de la question du long terme, c'est-à-dire du taux d'actualisation, vous considérez qu'il n'y a aucune défaillance de marché et donc vous faites un calcul qui est très simpliste parce que, non pas que votre... Vous êtes bien avec une politique publique, mais vous êtes dans une politique publique où il y aurait juste un problème avec le fonctionnement de l'économie, alors qu'on a l'impression que dans le cas du carbone, ils interagissent un peu tous. Alors, l'approche qui a été développée, donc par rapport à ça, c'est les deux formules importantes, c'est celle-là, c'est que l'approche développée par Christian, ce n'est pas celle-là. Donc, si je compare c'est les deux critères de bien-être, deux différences fondamentales. La première, c'est qu'on fait... Alors, sous réserve de problèmes techniques de convergence, alors qu'ils ne sont pas seulement forcément techniques, mais enfin, traitons-les comme techniques. Donc, on fait une somme sans pondérer, c'est-à-dire que chacune des toutes les générations ont a priori la même valeur dans le critère. Et donc, on a un critère, alors, qui est à la fois un critère qui dit que si on améliore la situation de toutes les générations, ça améliore le critère, donc c'est un critère qui... un gain d'efficacité va dans le sens de l'amélioration du critère, mais c'est un critère aussi qui comporte une aversion à l'inégalité, c'est-à-dire que comme les fonctions U sont des fonctions qui correspondent à l'aversion au risque, ça veut dire que si on répartit de manière plus inégalitaire une même richesse là entre les générations, on va avoir le critère qui baisse. Et donc, le critère qu'on a là est un critère qui intègre l'ensemble des éléments. Ce n'est pas un critère d'efficacité, juste d'efficacité, c'est un critère de bien-être qui donne le même poids à toutes les générations et qui, à la fois, et qui, par ailleurs, du point de vue du traitement du risque, évidemment, va traiter correctement le risque, c'est-à-dire on ne remplace pas les risques par leur moyenne, on va prendre l'espérance des utilités, ce qui veut dire que quand on a des opérations qui apportent de l'assurance, ça va augmenter le critère de bien-être. Donc on a un critère qui fait tout ça. Et donc, le fait que, par exemple, que l'incertitude soit pleinement intégrée, ça permet de justifier la décroissance des taux d'actualisation avec le temps, et donc les générations futures, enfin, on va moins écraser le futur qu'avec le critère classique. D'autre part, et c'est le combat de Christian, c'est de dire qu'il faut aussi différencier les taux d'actualisation sur les projets pour intégrer des primes de risque qui vont faire que quand on a un projet qui assure les générations futures, il doit être crédité d'une certaine valeur supplémentaire à ce titre, alors qu'un projet qui apporte juste de la richesse aux plus riches, enfin, dans les scénarios les plus riches, dans les scénarios les plus favorables, ben, ça n'a pas la même valeur, quoi. Donc entre l'enseignement scolaire et puis... l'amélioration des aéroports, il y a quand même des enjeux sociaux qui ne sont pas les mêmes et on doit en tenir compte. Donc voilà. Donc, si on prend ça, ça répond assez clairement aux deux premières critiques, le critère éthique, là on a considéré toutes les générations également, et le critère d'incertitude, on a considéré un critère avec l'incertitude et avec aversion pour le risque, donc, et aversion à l'inégalité. Alors, on n'a pas mis l'impact distributif. En fait, j'ai un peu donné la réponse. Dans le critère tel que je l'ai présenté, comme ça, qui était celui qu'a manipulé Christian pendant tout le mois de février, on n'a pas mis les inégalités. Mais pour mettre les inégalités, il n'y a aucune difficulté. Il suffit de mettre, par exemple, deux classes d'agents à chaque génération, des riches et des pauvres. Et s'ils n'ont pas le même revenu, bah, la forme de la fonction d'utilité va faire que si on a une politique qui est plus inégalitaire, bah, ça diminue le critère, alors que si elle est plus égalitaire, au contraire, ça va être valorisé. Donc, en fait, intégrer l'aspect redistributif n'est pas une complication, c'est dans le critère. En réalité, on peut le faire. Et c'est exactement la même... puisqu'au fond... Comme ça a été expliqué, raisonner sous le voile de l'ignorance, c'est la même chose. Enfin, on transfère des problèmes d'inégalité en des problèmes d'assurance sous le voile de l'ignorance. Donc, on peut le faire entre générations. Donc, Christian a privilégié, pour ce qui l'intéressait, une approche qui essayait de partir d'un critère qui était averse à l'inégalité intergénérationnelle. Mais on peut, avec exactement les mêmes concepts, traiter de aussi, évidemment, d'une aversion aux inégalités intragénérationnelles, c'est exactement la même chose. Donc, on a maintenant répondu aux trois questions, et il reste la question, oui, mais vous en êtes dans des économies où il y a plein d'autres défaillances du marché, etc. Bon. Que dire par rapport à ça ? Alors, que dire par rapport à ça ? Qu'on a un article récent de Stiglitz et Stern qui est entièrement consacré à ça et qui explique qu'on ne peut pas faire d'analyse coût-bénéfice parce que aucun des marchés n'est parfait, si on va très vite, c'est quasiment ce qu'ils disent. Ils disent qu'il y a une approche alternative, mais ils ne la donnent pas vraiment, en fait. En fait, si vous regardez le critère qui a été proposé, on va faire un calcul par rapport à une situation de référence qui est l'économie, l'économie dans la situation de référence. Rien ne dit que c'est une économie de premier rang, enfin une économie où tous les marchés fonctionnent bien. Donc on peut très bien imaginer que là on a un critère, que ce critère ne s'applique pas à une économie parfaite, mais à une économie imparfaite. Et c'est ce qu'ont fait d'autres économistes, en fait, Dasgupta, Aro Dasgupta et d'autres, dans deux papiers au début des années 2000 sur les choix de sur l'évaluation de projets, et puis repris au fond en 2010 pour éclairer les critères d'indicateurs de richesse, etc. Donc en fait, on peut appliquer la même démarche simplement à des économies imparfaites. Qu'est-ce que ça change? Alors on est dans un monde de second rang. Quelques idées sur ce qu'il faut changer. Il faut changer, évidemment, les prix de marché ne sont plus représentatifs des valeurs, des coûts sociaux hors externalité. Donc il peut y avoir, prenons un exemple simple. Si vous devez choisir entre importer du bois, enfin vous êtes la puissance publique, vous voulez faire un équipement public qui va utiliser du bois pour la construction, vous hésitez entre du bois qui vient d'une forêt gérée de manière durable, renouvellement, et puis du bois qui viendrait d'un pays où ce serait de la déforestation. Bon, donc l'effet sur le carbone ne sera pas du tout le même, puisque dans un cas, ça va émettre du carbone, alors que dans l'autre cas, les émissions de carbone vont être compensées par le plantage. Bon. Donc évidemment, le prix du bois, le prix de marché du bois ne va pas être correct, et la comparaison, donc il faut que vous corrigiez, donc que vous réintégriez, et c'est un peu l'idée qu'on a avec les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, c'est qu'éventuellement, là, si on ne faisait pas ça, il y aurait une distorsion de compétitivité. On va privilégier quelque chose qui est en apparence plus compétitif, mais qui, socialement, ne l'est pas. Donc, il faut corriger ça. Donc, il faut corriger éventuellement tous les prix par rapport aux défaillances de marché. Bon, ensuite, il faut aussi prendre en compte pourquoi on n'est pas dans une économie parfaite. Typiquement, par exemple, si on prend les aspects distributifs. Bon, par exemple, si vous prenez les finances publiques, les finances publiques, on sait qu'elles sont financées par des impôts. Ces impôts, ça va créer des incitations, des distorsions dans le fonctionnement du marché du travail, ça va décourager l'innovation, etc. D'où il y a des limites à augmenter comme ça indéfiniment les prélèvements obligatoires, et donc il faut prendre ça en compte, et donc il faut prendre en compte éventuellement les distorsions qui sont liées au financement des politiques, c'est-à-dire on ne peut pas donner des subventions à la dépollution indéfiniment s'il faut les financer par des distorsions sur le marché du travail, il faut intégrer cet arbitrage. Il faut quand même introduire deux bémols à ça, c'est-à-dire que, évidemment, les corrections apportées, elles vont dépendre crucialement de la manière dont la politique que vous menez va affecter, les imperfections de marché. S'il se trouve que vous avez une politique qui est progressive, qui se trouve être spontanément progressive, développer l'enseignement scolaire primaire, ça va plutôt dans le sens où vous n'arrivez pas à faire autant de redistribution des riches vers les pauvres que vous souhaiteriez, mais en développant l'enseignement scolaire, vous allez dans le bon sens. Donc là, la correction va être positive. Évidemment, sur les politiques climatiques, ça va plutôt dans le mauvais sens. Et ensuite, il faut regarder, et puis il y a des fois, c'est neutre, c'est-à-dire que vous avez des politiques, ça va bénéficier à peu près à tout le monde également, et donc, certes, il y a des imperfections de marché, mais ça ne va pas changer grand-chose pour votre calcul économique, parce que c'est assez orthogonal. Donc, le calcul économique devient quand même plus compliqué, c'est-à-dire qu'il faut regarder vraiment à chaque fois comment la mesure envisagée va... Il ne suffit pas de dire qu'il y a des imperfections de marché, il faut être capable en plus de dire comment les politiques qu'on va mener vont affecter, vont alléger ou au contraire aggraver ou aiguiser les problèmes du fait que certains marchés fonctionnent mal. Et puis ensuite, il faut regarder les instruments qu'on aurait pour régler le problème. Si on peut régler, certes, une politique peut être régressive, par exemple, politique enseignement universitaire qui tient à cœur à Christian, on sait que les ménages aisés bénéficient plus des politiques universitaires que les ménages modestes, par exemple. Mais on peut traiter ça par des bourses. Si on peut traiter ça parfaitement par des bourses, on ne va pas arrêter l'enseignement universitaire. Alors, par contre, si on s'interdit de mettre en place les bourses qu'il faut et le bon dispositif de bourses qu'il faut, évidemment, Quand on fait des politiques universitaires, on est pris entre Charib et Silla. D'un côté, on se dit c'est bien parce que ça va améliorer l'efficacité économique, mais de l'autre, c'est très inégalitaire. Si on a des instruments pour régler le problème, l'appréciation peut changer. Par contre, il faut vraiment regarder les instruments qu'on a pour régler les problèmes. OK. Donc, ce que j'ai fait après, j'ai tout dit. Donc, ce que j'ai dit... Donc, je conclue presque. Ce que j'ai dit, c'est que, dans ce qu'a présenté Christian, ça permet d'améliorer l'analyse coût-bénéfice classique en justifiant des critères des prix du carbone, mettons, de 150 euros. Et évidemment, ça fait que le climat va compter beaucoup plus dans toutes les décisions et dans toutes les politiques publiques. Le point que je voulais juste signaler, c'est le fait qu'avec ce critère de l'analyse, enfin, élargi, on est obligé, par exemple, si on fait une taxe carbone... Alors, je crois que Kathleen a dû vous raconter quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la paix des braves, c'est, on dit, l'analyse coût-bénéfice classique, c'est de l'efficacité. Et puis ensuite, il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde les compensations, qui s'attache à essayer de faire la bonne redistribution. Si on prend le critère intégré, on est obligé de tout regarder simultanément. Et ça, ça évite. Parce que donc, si on fait ça, aujourd'hui, on dit, moi, j'ai montré l'efficacité de ma politique. Et puis, on dit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des mesures d'accompagnement. Sauf que le débat public, il dit, moi, pour moi, les gilets jaunes, ils disent, oui, mais nous, on n'a pas confiance dans l'usage qui va être fait. On a l'impression qu'en fait, vous cherchez à nous prendre de l'argent. Et donc, on veut voir vraiment ce qui sera fait de l'argent. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On bricole, on fait des comparaisons, mais on ne sait pas si c'est pertinent. Est-ce qu'il faut restituer la recette? Est-ce qu'il faut, au contraire, utiliser la recette pour baisser des impôts qui sont très distorsifs? Est-ce qu'il faut financer de l'investissement vert? Et ce débat qui est au cœur du débat sur les politiques climatiques est totalement laissé en dehors de tout éclairage. On dit, c'est à d'autres de s'en occuper. Bon, et donc, on ne peut pas faire comme ça. Et par contre, si on prend le critère intégré, ce qu'on voit... Alors, je ne vais pas faire le détail. J'ai fait une taxe carbone à 150 euros qui rapporterait un bénéfice classique de 1,5 milliard par an. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y aurait, si on regarde les coûts, ça rapporterait 2,7 milliards aux générations futures. Hein, on passe de 50 euros à 80 euros. On apporte 2,7 milliards aux générations futures, mais ex ante, comme ça pèse plus sur les ménages modestes qui sont plus émetteurs, ils en supportent 426 millions. Les 80% plus aisés en supportent 2,3 milliards. Et le budget gagne 1,560 milliards. C'est 1,560 milliards, on dit, c'est pas le problème, vous inquiétez pas, le processus budgétaire fonctionne bien, vous faites confiance, ce sera bien utilisé. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est que s'imagine que les 1,560 sont totalement gaspillés, avec mon calcul, qui est par ailleurs un calcul qui accorde plus de poids aux pauvres qu'aux riches, on constate qu'en réalité, la valeur actuelle nette de cette politique qui est très favorable, puisque au fond, le prix du carbone, il est à 150 euros, et on ne fait que d'aller de 50 à 80 euros, donc on est encore très loin de mobiliser tous les gisements d'émissions qu'on pourrait, donc les générations futures comptent forcément beaucoup plus. Et on constate que si le budget gaspillait purement et simplement les 1560 euros qu'il va récupérer comme ça en recette de poche, la vanne tombe à 240 millions d'euros, c'est-à-dire que le sacrifice qu'on demande aux générations présentes devient comparable aux bénéfices qu'on donne aux générations futures. Par contre, si on redistribue forfaitairement par unité de consommation, donc chacun restitue ce qui était une proposition, là on fait même mieux que le chiffre de l'analyse classique, parce qu'on traite les euros au prorata des ménages, enfin au nombre d'unités de consommation dans le ménage, c'est progressif. Donc on corrige la régressivité de la taxe carbone par une mesure qui est progressive, et ça marche bien, puisqu'on fait même mieux que ce que dirait l'analyse coût-bénéfice classique. Bon, si on veut aller plus loin, il faut regarder plus techniquement les distorsions, etc. Autre chose, deux points pour terminer, et l'investissement vert. Si on fait ce genre de calcul, tout va dépendre de l'efficacité de l'investissement vert. Si on fait un investissement vert qui a un coût d'abattement, j'ai mis à 130 euros la tonne de carbone évitée. Alors là, ça marche bien, puisque en tarification du carbone, vous n'alliez que jusqu'à 80 euros, ce qui est très inférieur à 150, et grâce à la recette, vous faites des mesures qui sont encore à 130 euros la tonne de carbone, alors que la valeur carbone que vous considérez est de 150. Donc là, les deux côtés se combinent, et c'est plutôt bien de faire de l'investissement vert. Mais si vous faites simplement des investissements verts dont le coût à la tonne de carbone évité est de 200 euros la tonne de carbone, bah là, ça devient très, très inférieur à la tarification du carbone avec restitution de la recette sous forme forfaitisée, quoi. Donc on voit bien qu'avec cet instrument, on peut classer en fonction de ce qui sera effectivement fait de l'argent. Enfin, un, on reconnaît qu'il faut regarder ce qu'on va faire de l'argent. On ne peut pas dire qu'on laisse ça sans confiance. De toute façon, les gens ne nous font pas confiance là-dessus. Et ensuite, on peut classer les différentes. Si on est sûr de faire des investissements verts, mais, donc le débat ne devient plus un débat investissement vert contre restitution de la recette. Le message est clair. Si c'est des investissements verts qui sont au coût à la tonne de carbone évité qui sont efficaces, il vaut peut-être mieux faire des investissements verts. Par contre, si, comme souvent, comme le montre Christian, il y a beaucoup d'investissements publics qui sont à des coûts à la tonne de carbone évité qui sont bien au-delà de la valeur carbone qu'on considère, ben là, il vaut mieux pas faire ces investissements verts, il vaudrait mieux restituer l'argent. Donc on a de quoi, donc c'est ma conclusion. Le dernier point, c'est qu'évidemment, on pourrait rajouter une distinction entre ménages ruraux et ménages urbains, ce qui amènerait à montrer d'ailleurs qu'en fait, le problème redistributif avec la tarification du carbone, il est plus sur d'assurer les gens vis-à-vis de la volatilité des prix fossiles que finalement, réellement, le prix du carbone. Enfin bon. Donc, on a un instrument qui nous permet d'avoir tous ces éclairages et de manière intégrée avec un seul critère. Donc, je pense que c'est quand même un très grand pas en avant par rapport à l'utilisation d'un critère d'analyse coût-bénéfice un peu classique qui prenait quand même l'eau de toutes parts, parce que par rapport aux quatre critiques récurrentes que j'ai évoquées, c'est vrai, quand on appliquait ça au carbone, on pouvait se sentir quand même un peu mal à l'aise. Et là, on a l'instrument qui permet d'éclairer les choix. Après, les choix, c'est le politique de les faire, mais au moins, en lui donnant, en ne laissant pas le politique avec tellement de paramètres et de variables rendant incompréhensibles les questions auxquelles on répond, là, on peut classer les différents impacts. Et voilà. Donc, je pense qu'on a un outil qui permet d'aller répondre que ta dernière phrase qu'il avait dit, il faut que le politique se dote de moyens d'évaluation. C'est pas juste un vœu pieux. On a les concepts qui permettraient de le faire si on le veut.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique.